Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Maëlys Sandré, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Leu. Dernier temps de notre semaine que nous consacrons à faire l'inventaire, le bilan de l'Union Européenne à l'approche des élections, démocratie parlementaire lundi, zone euro mardi, espace Schengen mercredi, nous l'avons vu, de grandes dynamiques traversent l'espace européen, elles dessinent un territoire instable et fragmenté qui cherche ses limites. On va parler justement de limites ce matin, des élargissements au Brexit, l'Union a-t-elle atteint sa taille adulte? C'est la question ce matin qu'on se pose dans Culture Monde.
La séparation en deux du continent et avec elle de ses habitants est terminée, c'est irréversible. Les peuples de l'Est et du centre de l'Europe appartiennent désormais à la famille européenne.
Pour les Français, on n'était pas européen avant d'entrer dans l'Union européenne. Là, on est devenu européen tout d'un coup. Mais sinon, oui, c'est une chance parce qu'on va pouvoir voyager sans avoir 1000 contrôles à la douane et tout ça.
Les Britanniques ont donc voté pour un retrait de l'Union européenne par 51,9% des voix, un résultat serré mais qui divise le Royaume-Uni et qui plonge l'Europe dans une crise historique.
Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. L'Union européenne tombe, l'Union européenne meurt, j'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs.
Je suis désolée, mais ce sont les riches qui veulent rester dans l'Europe. Pour les pauvres comme moi, l'Europe n'apporte rien et ça ne fait qu'empirer pour nous.
Au nord, mais également au sud, le territoire de l'Union européenne semble se replier. Chassé des îles britanniques par le Brexit, arc-bouté sur ses frontières méditerranéennes sous pression migratoire, la communauté politique européenne ne sait plus où porter ses désirs ni comment alimenter sa prospérité. Vers le sud-est, peut-être, en intégrant les Balkans, vers l'Orient, au-delà des Carpates, des espaces dangereux et incertains où la puissance russe sommeille. Mais le temps de la maturité est peut-être venu, le temps de l'approfondissement des coopérations au sein de frontières stabilisées, si l'Est et l'Ouest de l'Union européenne arrivent à s'entendre, si le groupe de Visegrad et plus généralement les pays d'Europe centrale poursuivent le mouvement d'intégration, l'espace européen aura peut-être trouvé une forme durable. À moins que eh bien, les déséquilibres ne s'accroissent et qu'une Europe rétrécie, recentrée autour du couple franco-allemand, ne soit le dernier vestige du projet européen d'un territoire pacifique, uni et prospère. Alors comment comprendre l'arrêt des processus d'adhésion et d'intégration européens? L'Union est-elle vouée à se réduire comme peau de chagrin? Quel espace géopolitique peut se dégager des frontières instables de l'Union? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ici en plateau. D'abord Michel Fouché, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, ancien ambassadeur de France, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation des sciences de l'homme, la Maison des sciences de l'homme, et puis auteur d'un dernier ouvrage, L'Europe, un dessin, un destin, qui est paru aux éditions Marie B. À vos côtés, eh bien, c'est un historien, Laurent Varlouzet. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale, et auteur notamment d'un ouvrage en anglais, Governing Europe in Globalizing World.
The Globalizing World. Donc, voilà. J'ai gouverné l'Europe dans un monde qui se globalise, l'Europe et la mondialisation.
Paru chez Routledge. On va commencer peut-être avec le Brexit et je vais commencer avec vous, Michel Fouché. D'ici fin mars, maintenant, la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne. Alors, on ne sait toujours pas comment elle va sortir. Comment se fera cet accord, cette sortie avec, sans accord, ni même si elle se forme, parce que aujourd'hui, l'hypothèse d'un nouveau référendum n'est pas totalement exclue. Mais de facto, cette sortie de la Grande-Bretagne va remettre en cause, pour la première fois de son histoire, le mouvement d'expansion des frontières de l'Union européenne. Michel Fouché, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'effet domino et que d'autres États pourraient tenter de faire de même? Et surtout, qu'est-ce que ce Brexit nous dit des limites de l'extension des frontières de l'Europe? Pour reprendre la question qu'on a choisie aujourd'hui, est-ce que l'Union a atteint sa taille adulte?
Le Brexit n'a pas encore eu lieu. Moi, je pense depuis le début qu'il n'aura pas lieu. Mais ça prendra du temps. Il faudra que l'opinion publique, qui est divisée en effet, qui est aussi légitimiste, donc qui respecte la décision de 2016, qui était un référendum seulement consultatif, se rende compte des conséquences. Alors, c'est en train de commencer. Aujourd'hui, les sondages indiquent qu'en cas de deuxième référendum, il y aurait 56% des électeurs qui seraient favorables en fait, au maintien dans l'Union européenne.
Sauf que pour l'instant, tout le monde exclut le référendum et Theresa May et encore du côté travailliste, même si on s'interroge.
Le principal responsable du maintien de cette situation n'est pas Madame May, mais Jeremy Corbyn. Tout ça, on le sait. L'effet, c'est on commence à se rendre compte que c'est pas si facile de sortir de cet espace dans lequel, d'ailleurs, les Britanniques, moi je l'ai vu en diplomatie, avaient un rôle dominant. C'est ils quittent l'Union européenne qu'ils ont façonnée, libérale, ouverte, en extension continue. Deuxièmement, ça a provoqué dans les opinions publiques, et le dernier Eurobaromètre du mois d'octobre le confirme, un renforcement de l'adhésion des opinions des 27 à l'Union européenne. C'est-à-dire que les diplomates britanniques se sont heurtés à quelque chose qu'ils n'attendaient pas. C'est une union, une unité remarquable de la position des 27 qui a donné une force à Michel Barnier tout à fait considérable dans la négociation.
Laurent Varlouzet, le regard de l'historien, vous êtes beaucoup intéressé à cette question du Brexit et plus généralement à l'histoire des relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. On a beaucoup entendu l'idée que finalement le Brexit est tout à fait dans l'ordre des choses, que la Grande-Bretagne n'aurait en réalité jamais dû intégrer l'Europe, l'Union européenne, et que par ailleurs ils ont souvent été un frein à l'intégration et que d'une certaine manière leur départ est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe. Est-ce que vous diriez qu'effectivement le Brexit est relativement normal, naturel, attendu au regard de l'histoire que les Britanniques entretiennent avec ce projet européen ?
En fait, il y a deux interprétations du Brexit. On peut le voir effectivement comme la manifestation d'une défiance envers les institutions internationales, les institutions en général, puisque le Brexit aussi a suscité beaucoup de critiques des élites et de l'expertise en général. Et donc là, on associe le Brexit de 2016 avec un autre événement majeur de 2016 qui est l'élection de Donald Trump. Mais d'un autre côté, effectivement, comme vous le soulignez, on peut aussi voir le Brexit comme une manifestation de la particularité britannique. Les Britanniques ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Bon, nous aussi, mais bon, on a été un peu traumatisés par 1940. Donc on n'a pas le même rapport avec notre passé impérial. On n'a pas le même rapport avec un certain nombre d'éléments de la souveraineté et du rapport avec nos voisins. Rapport que n'ont pas les Britanniques. Et donc du coup, ils ont toujours eu un rapport particulier à l'Europe. Et si le Brexit se produit, l'enjeu c'est de savoir comment les garder dans un écheveau de coopération européenne sans être forcément au sein de l'Union européenne, mais sans non plus détricoter l'Union européenne pour leur donner un statut qui leur donnerait le meilleur des deux mondes.
Sur ce que disait à l'instant Michel Fouché à propos de la sortie de la Grande-Bretagne, alors Michel Fouché ne croit pas à la sortie, il dit que finalement la sortie n'aura pas lieu, mais on voit bien que là pour le moment, en tout cas, on se dirige tout droit vers un no deal qui est en fait la pire solution pour tout le monde et qu'au fond, on n'a pas réussi à organiser la sortie d'un des États membres, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Est-ce que ça veut dire que finalement sortir de l'Union européenne, c'est impossible ? En tout cas, de façon réfléchie, coordonnée, ordonnée, on ne peut pas.
Alors on peut, mais c'est comme sortir de l'euro. Vous savez, à un moment on parlait du Grexit. Tout ça c'est assez compliqué. On peut pas réduire ça à des slogans très simplistes. Mais on le peut toujours. Le peuple reste souverain et donc du coup tout le monde a respecté la décision de 2016.
L'expérience montre que là on n'y arrive pas de façon réfléchie, coordonnée, ordonnée. Je redis, hein. Évidemment, ça va avoir lieu a priori. Mais
ben c'est parce que dans un référendum s'expriment des opinions très différentes au sein d'un même camp, que ce soit le oui ou le non, et donc c'est difficile à interpréter. C'est là que se pose le problème en termes de négociation.
Michel Fouché, depuis lundi, on a abordé trois objets destinés à dresser une forme d'inventaire de l'action européenne. Hier, on parlait de la mobilité des travailleurs à l'intérieur de l'Europe. Mardi, on parlait de la monnaie commune. Lundi, on parlait du Parlement. Et à chaque fois, on parlait d'Europe, mais à chaque fois, on faisait référence à des espaces, à des territoires, à des frontières différentes. La zone euro à 19 pays pour la monnaie, l'espace Schengen à 22 États membres, 28, bientôt 27 pour ce qui est du Parlement. Comment est-ce que vous lisez cette variation des contours des frontières de l'Europe ? Est-ce que vous diriez que ça révèle une forme de faille dans le projet européen lui-même ? Ou est-ce qu'au contraire, il traduit une capacité à s'adapter pour poursuivre sur le chemin de l'intégration et que d'une certaine manière, le modèle d'expansion de l'Union est donc pertinent ? Michel Fouché.
La deuxième interprétation qui est la bonne, parce que, je dis ça sous le contrôle de Laurent Varlouzet, la construction européenne, en tout cas ce qu'on appelle en France la construction européenne, a une histoire longue. Et en fait, c'est une affaire qui marche depuis 1950, disons 57, mais ça a été lancé en 1950. En réponse, c'est le résultat, c'est la rencontre d'un projet du « plus jamais ça », réconciliation, c'est une alliance entre voisins, alors qu'avant les alliances, c'était des alliances de revers, et c'est une adaptation permanente à un contexte, la division, la guerre froide, la fin de la division de l'Europe et l'effondrement de l'Union soviétique, j'oublie la décolonisation. Donc en effet, il y a eu une espèce de stratification successive. Et ce que vous dites montre que, contrairement au discours fédéraliste ou aux critiques antifédéralistes, les États sont souverains. Les États, la Pologne peut décider de ne pas être dans la zone euro, et les Britanniques de ne pas être dans Schengen. Donc ça reste non pas une fédération d'États-nations, mais une confédération d'États-nations. Mon interprétation de l'Union européenne est très simple, c'est une alliance. Alors le terme est compliqué à utiliser à cause de l'alliance atlantique, mais en fait, historiquement, c'est une alliance volontaire d'États démocratiques qui exercent en commun certaines compétences déléguées. Avec, vous l'avez noté, des succès. L'euro en 20 ans est devenu la deuxième monnaie de réserve du monde. C'est 28% des réserves de la Banque centrale chinoise, c'est 40% des réserves de la Banque centrale russe. Le Parlement européen monte en puissance. La Commission s'est relativement affaiblie. Et le Conseil européen, en fait, a la décision, c'est-à-dire c'est les chefs d'État et de gouvernement. Donc, en effet, il y a une espèce d'adaptation permanente. Ce qui gêne les institutions... C'est l'événement. La règle fonctionne, c'est une communauté de droit, c'est le plus grand espace démocratique du monde. Le Parlement européen, il faut que les gens comprennent ça pour les élections du 23-26 mars, c'est le seul cas dans le monde où on a des élections pour un Parlement multilingue, multinational, multiparti, j'ai envie de dire multiculturel. C'est le plus grand espace démocratique du monde. Et ça, il faut absolument le sauvegarder.
C'est mai prochain, mars, pour ceux qui...
Pardon, 23-26 mars, mai.
Laurent Varlouzet, sur cette effectivement capacité, au fond, à s'adapter. Aujourd'hui, on voit quand même, Michel Fougier nous dit, c'est une réussite, l'Union européenne. Oui, bien sûr, c'est une réussite, sauf que c'est aussi une Europe qui est dans une crise profonde. On voit bien qu'on a du mal à construire des compromis, on a du mal à faire fonctionner cette Europe à 28. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut précisément revenir à ce principe d'une Europe à géométrie variable, d'une Europe à plusieurs vitesses pour aller vers plus d'intégration, au risque de voir tout simplement s'effondrer l'édifice?
En fait, il y a, comme l'a dit Michel Fouché, il y a une certaine flexibilité, comme vous l'avez dit vous-même, il y a une flexibilité de la construction européenne, on pourrait dire des constructions européennes depuis l'origine, avec une géométrie variable en termes de profondeur de coopération qui a été préservée, qui ne date pas du Brexit, puisque donc la zone euro a été géométrie variable, Schengen, il y a même des accords plus spécifiques, le divorce européen, les brevets européens qui ne sont pas conclus par tous les pays, et parfois qui incluent des pays en dehors de l'Union européenne, comme la Norvège ou la Suisse. Donc, c'est un élément de flexibilité. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que, du coup, en termes d'identification, pour un citoyen, c'est un petit peu compliqué de s'identifier à un espace dont les frontières sont floues. Et on l'a vu, lorsqu'il faut parler de solidarité, par exemple, on veut bien être solidaire avec quelqu'un...
Qui est dans le même cercle que nous, d'une certaine manière.
Voilà, qui est dans la même communauté que la nôtre, mais encore faut-il que cette communauté soit bien délimitée.
Michel Fouché, on parle de géométrie, mais de quelle géométrie? Emmanuel Macron avait fait l'année dernière une petite tournée européenne dans le cadre de sa consultation citoyenne pour l'Europe, sur l'Europe, qui avait d'ailleurs eu assez peu d'écho. Et il avait notamment évoqué l'idée d'une Europe faite de plusieurs cercles, trois cercles en l'occurrence, avec le cercle le plus large, qui consisterait, je le cite, en une union de valeurs et de principes démocratiques, quelque chose, disait-il, entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Un deuxième cercle plus resserré, celui du marché unique, quelque chose entre l'Union européenne et la zone euro actuelle, disait-il. Et puis enfin, troisième cercle, le cœur du réacteur, avec un marché du travail beaucoup plus intégré et une convergence sociale. Est-ce que cette vision, cette géométrie proposée par le président français vous semble adaptée pour répondre à la crise? Parce que quand même, crise il y a en Europe, Michel Fouché.
Je crois que le président français a une approche française des choses, géométrique, Versailles, l'Europe est un jardin à la française, avec des allées bien dessinées, des fontaines, des statues, tout ça c'est très beau.
Nos partenaires ne nous suivent pas sur cette géométrie.
On n'a pas la même logique. Je crois qu'il faut un peu dépasser ces questions-là. Le cœur du réacteur, c'est fondamentalement une communauté de droit, la règle et un marché unique, avec quelques politiques communes, notamment le commerce international. Et là, il n'est pas possible, en réalité, cette idée de géométrie variable est dangereuse. Elle n'est même pas dans l'intérêt des grands pays. Vous pouvez pas faire de la géométrie variable, par exemple, sur les questions fiscales, alors qu'on essaye de pousser la convergence fiscale entre des pays comme la France et des pays qui pratiquent des taxes extrêmement faibles pour attirer les entreprises américaines, comme l'Irlande ou l'Estonie. Ça se passe dans... Il ne faut pas modifier le cadre institutionnel. De même, c'est dans le cadre institutionnel de l'UE 27-28 qu'on peut travailler sur les phénomènes de convergence qui marquent le pas depuis la crise de 2008, d'où le... En revanche, on se rend compte que les initiatives, les idées nouvelles progressent hors traité. Le traité d'Aix-la-Chapelle qui complète, en fait, c'est un petit complément du traité de l'Élysée de 1963...
Que viennent de signer Emmanuel Macron et
il est hors traité de l'Union européenne. Mais il est normal que les deux principaux fondateurs continuent de prendre des initiatives. Donc je crois que on n'a pas besoin de rationaliser les choses. On a surtout besoin de faire fonctionner le cadre existant. On n'a plus besoin de nouveaux traités généraux, surtout pas de réformes institutionnelles. Il faut bannir le discours de la relance, qui est anxiogène. Il faut faire fonctionner ce qui existe, dans le cadre existant, et ça c'est 27-28,
mais ne pas s'interdire... Et améliorer la coopération, quitte à faire
en fonction des besoins.
Et quitte à faire des traités bilatéraux, comme c'est le cas avec surtout, la France et l'Allemagne
surtout,
aujourd'hui.
Mais c'est le titre de l'ouvrage de Laurent Varlouzet, c'est que aujourd'hui... Et c'est ce que je défends dans mon livre également.
L'Europe, un dessin, un destin.
Il faut penser la construction européenne à une autre échelle que l'échelle ancienne, carolingienne ou continentale. Il faut penser aujourd'hui, il faut ajouter une couche en quelque sorte. C'est quoi la construction européenne à l'échelle du monde? Et là, on va voir des divergences. L'industrie allemande, elle travaille aujourd'hui beaucoup plus aux États-Unis et en Chine qu'en Europe elle-même. Donc on a des divergences d'intérêts.
Laurent Varlouzet, effectivement, il y a donc cette idée d'une relance à géométrie variable, il y a cette idée d'une relance sur, disons, le noyau dur, le moteur, et en l'occurrence le couple franco-allemand. Cette semaine, je le rappelais, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé un nouveau traité de l'Élysée 50 ans après Adenauer et De Gaulle. C'est un texte d'ailleurs qui a nourri un certain nombre de fantasmes, on l'a vu notamment dans l'extrême droite française. Marine Le Pen, par exemple, accusant Emmanuel Macron de vouloir partager le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne, ce qui n'est pas du tout prévu dans le texte, puisqu'il s'agit, c'est toujours bien de le rappeler, le texte prévoit que l'octroi d'un siège à l'Allemagne au Conseil de sécurité sera une priorité de la diplomatie franco-allemande, ce qui est quand même pas tout à fait pareil. Mais que vous inspire ce nouveau geste destiné à... renforcer encore la coopération entre la France et l'Allemagne? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque à exclure d'une certaine manière les autres de cette relance, pardonnez-moi Michel Fouché, d'utiliser quand même cette idée de relance européenne? Laurent Varlouzet, bonne idée ou mauvaise idée?
Alors, c'est pas forcément contradictoire de toute façon, puisque le couple franco-allemand fonctionne justement parce que c'est un couple, et dans un couple, souvent les deux membres sont s'efforcent d'être en phase, mais en partant de positions différentes. Et donc l'intérêt du couple franco-allemand, c'est pas de dominer les autres, c'est de partir de deux visions parfois très différentes en matière économique et sociale, par exemple, pour essayer de trouver des voies possibles d'un compromis déjà entre la France et l'Allemagne qui pourrait comme ça séduire d'autres pays. Donc effectivement, il faut voir le couple franco-allemand plus comme un facilitateur que comme une espèce de duopole impérialiste. On voit bien aujourd'hui, de toute façon, dans l'Europe à 27, et on l'a vu par exemple pour la révision de la directive sur les travailleurs détachés, qu'il faut convaincre les pays d'Europe du Sud, du Nord, mais aussi du Centre et de l'Est. Hein, et donc il ne faut négliger personne, que ce soit des petits ou des grands pays.
Michel Fouché, très bien, Laurent Varlouzet nous dit c'est l'idée, c'est de trouver un compromis entre la France et l'Allemagne et ensuite de rallier les autres, sauf que dans les faits, quand on regarde les choses, et Emmanuel Macron et Angela Merkel sont assez isolés sur la scène européenne. Oui, ils le sont sur leur scène nationale respective, et ils le sont sur la scène européenne. Enfin, alors est-ce qu'effectivement trouver un compromis entre la France et l'Allemagne, ça peut permettre de rallier les autres?
Oui, mais dans un premier temps, il s'agit d'adapter, disons, la relation franco-allemande à ce que le président Macron appelle les tumultes du monde, et du côté allemand à ce traumatisme de la remise en cause de la relation transatlantique et cette détestation du président Trump à l'égard de Madame Merkel. C'est la première fois qu'il y a un tel divorce transatlantique entre un pays l'Allemagne qui compte absolument sur la sécurité des États-Unis et l'accès au marché américain. Et donc,
mais le texte, divorce, il n'est pas seulement entre l'Allemagne et les États-Unis, il est aussi entre l'Allemagne, la France et la partie la plus orientale de l'Europe. Ce sont les populistes, les nationalismes de l'Europe centrale. Mais non, ce n'est pas. Et non, parce que
ça n'est pas l'objet du traité. Moi, j'ai lu le traité. Le traité fait 28 articles.
J'entends bien.
7 chapitres. Il s'intitule « De la réconciliation à la convergence accrue, préparer les deux pays aux défis communs ». Donc il faut repenser les défis internationaux, Poutine, Xi, Trump, et qui sont encore plus traumatisants pour l'Allemagne que pour la France, parce que la France a des actions de politique extérieure que l'Allemagne n'a pas. Donc il est question d'augmenter les consultations, d'améliorer la base technique de défense, qui est un peu en retard, parce que jusqu'à maintenant, en Allemagne, on achetait les produits américains, puis aussi le bilinguisme et favorise la coopération transfrontalière.
J'entends bien, il faut lire ça. J'entends bien, Michel Fouché.
Donc, il faut aussi emmener
dans cette ambition l'ensemble des États membres, et en particulier les États membres de l'Europe orientale, l'Europe centrale, qui aujourd'hui sont noyautés par des populismes, des nationalismes qui ne sont pas du tout sur cette ligne, depuis Viktor Orban jusqu'au PiS polonais.
On devrait éviter de parler d'Orban du matin au soir.
Enfin, il fait partie de l'Europe, Orban.
Vous savez, Orban va se calmer le jour où on discutera des prochaines perspectives financières. Parce que sans l'Union européenne, il n'y a pas de métro à Budapest. Donc ils vont se calmer. Et du côté polonais également, c'est une parenthèse. Et il y aura des élections en Pologne et il y aura une espèce de retour à la normale. Je crois que on en fait beaucoup trop grand cas. C'est vrai qu'on a un peu négligé au moment de l'élargissement l'histoire de ces pays. Et je pense souvent, pour les connaître assez bien, que on ne peut pas leur reprocher leur dérive nationaliste, alors qu'on était très heureux que le sentiment national polonais, extrêmement fort, adossé à l'Église, lui permette de survivre à l'époque de Staline. Donc il faut prendre les États comme ils sont. Et ils ont survécu, ces petits États d'Europe centrale, parce qu'il y avait un fort sentiment national. Donc il faut qu'on le gère, ça, sans les condamner tous les jours.
Laurent Barlouzet, comment on gère justement la chose? C'est vrai que cet élargissement de 2004, il a provoqué un sentiment, en tout cas, de fracture entre une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est. C'est vrai que, quand même, en quelques années, on est passé d'une Europe à 15, une Europe à 28. Quel regard est-ce que vous portez justement sur cette fracture réelle ou supposée entre une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest? Est-ce que finalement, ce sentiment, il est réellement partagé par tous et en particulier à l'Est? Ou est-ce que c'est un sentiment qu'on a, nous, ici en particulier? Parce que français, sur la partie la plus occidentale de l'Europe, on a ce sentiment au fond que, bah, de fait, le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé et qu'on est moins au cœur de l'Europe.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement ces deux éléments. D'une part, il y a un élargissement, effectivement, ça provoque plus de complexité au niveau institutionnel. Ça a provoqué aussi plus de concurrence économique et sociale, c'est sûr. Mais d'un autre côté, il ne faut pas attribuer tous les maux de l'Europe aux pays d'Europe centrale et orientale. On a vu la crise de l'euro, qu'est-ce que c'était? C'était plutôt un clivage nord-sud. Les pays qui ont le plus souffert de la zone euro, ce qu'on appelait de manière très maladroite les PIGS, c'était pas du tout les pays d'Europe de l'Est, c'était les pays d'Europe du Sud plus l'Irlande, en fait, ceux qui ont le plus souffert de la crise financière. Il y a des populismes, effectivement, en Pologne, en Hongrie, la Roumanie pose problème, mais bon, si on regarde l'Italie, on voit bien que même un vieux pays d'Europe de l'Ouest est aussi confronté aux populistes. Un pays fondateur. Si on regarde la situation en Grande-Bretagne, on s'aperçoit que sans atteindre effectivement la situation de ce qui se passe en Hongrie, le fonctionnement n'est pas toujours optimal. Donc l'élargissement a induit des défis qui sont importants, défis institutionnels, défis économiques, mais il y a une convergence. La Pologne, c'est le seul pays qui a toujours continué à croître sur le plan économique pendant toute la crise. Mais en même temps, il ne faut pas non plus leur attribuer tous les défauts de l'Europe des systèmes démocratiques qu'on connaît aujourd'hui en France.
Il y a quand même un mystère, Laurent Barlouzet, Michel Fouché, dans ces nationalismes, ces populismes d'Europe centrale, et même d'ailleurs en Italie. Il y a quelques années encore, c'était des pays qui étaient particulièrement europhiles, et voilà qu'aujourd'hui, ça fait partie des pays précisément les plus eurosceptiques. Et on va le voir une nouvelle fois lors des prochaines élections européennes. Au fond, Michel Fouché, comment comprendre, qu'est-ce qui a provoqué cette fièvre populiste dans les pays d'Europe centrale, mais peut-être aussi chez nos voisins italiens, alors même que c'était des pays très europhiles.
En Italie, il y a l'impact de la crise économique de 2008. L'Italie n'a pas retrouvé en 2019 le niveau de vie de 2007. Alors que c'est un pays qui a très peu de déficit public, qui a une balance commerciale excédentaire, à la différence de la France, et qui fait preuve d'un dynamisme extraordinaire, tant au plan culturel qu'au plan industriel et des exportations.
Et sur les pays d'Europe centrale?
Et en même temps, c'est un pays qui est extrêmement divisé. Si vous regardez la carte, c'est le Nord contre le Nord avec le Sud. Mais en fait, en Europe centrale, il y a le phénomène très particulier de Kaczynski, traumatisé lui aussi par la mort de son jumeau à Smolensk, et ne cherchant qu'une explication dans une espèce de complot russe, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Et en effet, une réaction de la société, notamment dans les petites villes et dans les campagnes, face, non pas à l'Europe, mais à la globalisation et à la modernisation accélérée de ce pays. C'est un pays où je suis allé pendant des années au Collège d'Europe de Natolin, à côté de Varsovie. On a vu les changements. Et il y a une permanence aujourd'hui dans tous les pays occidentaux, et révélée par la carte électorale. C'est au fond ceux qui sont à l'aise avec ces changements, les phénomènes d'ouverture, etc. Et ceux qui décrochent, c'est la carte du Brexit, c'est la carte de l'extrême droite en France, c'est la carte du sud de l'Italie, c'est la carte des dernières élections polonaises. Les grandes villes sont libérales et pro-européennes. Et donc il y a quelque chose là à quoi les gouvernements devraient être beaucoup plus attentifs parce qu'ils sont tous confrontés au même problème, c'est les questions au fond d'inégalité dans les capacités à s'adapter au monde tel qu'il est.
Laurent Berlouzet, vous êtes d'accord? Au fond, c'est le caractère libéral, voire néolibéral en tout cas, c'est un peu l'approche de l'Union européenne. Est-ce que c'est ça qui explique la fièvre nationaliste populiste dans ces pays d'Europe centrale? Trop de néolibéralisme et donc l'incapacité de profiter au fond des bienfaits de la mondialisation?
Alors ça a été un élément, c'est sûr. L'Union européenne, la mondialisation ont un caractère néolibéral affirmé. En même temps, dans l'Union européenne, il y a aussi un caractère de régulation du libéralisme et même de solidarité qui s'est fortement affirmé par des politiques de soutien envers les régions les plus pauvres et dont ont bénéficié les pays d'Europe centrale et orientale. Il y a des éléments aussi de législation qui s'efforcent de tempérer ce néolibéralisme. Mais c'est vrai que c'est la dimension dominante qui a été perçue. Et c'est ça, en fait, qui a contribué, effectivement, à la montée des populismes. Mais ce n'est pas l'Union européenne seule. En fait, c'est la crise de 2008, comme ça a été mentionné, qui a été atténué grâce aux amortisseurs sociaux, grâce aux États-providence, mais qui a provoqué énormément de destruction d'emplois, de casse sociale, et peut-être moins en France d'ailleurs que dans des pays comme la Grèce, qui ont d'ailleurs connu une situation dramatique, et qu'on retrouve souvent d'ailleurs quand les choses recommencent à s'améliorer. C'est souvent là qu'on a une poussée contestataire très forte.
Il y a quand même une anomalie dans la construction de l'Union européenne, ce sont les Balkans. Ils sont géographiquement situés en son cœur et pourtant ils n'en font pas partie. 2003, lors du sommet de Thessalonique, l'Europe avait solennellement déclaré que ces pays avaient vocation à rejoindre l'Union. Et plus de 15 ans après, ces pays, alors que je vais rappeler, Serbie, Kosovo, Macédoine, Albanie, Monténégro et Bosnie-Herzégovine, ne sont toujours pas intégrés et le chemin semble encore assez long. L'année dernière, la Commission européenne avait rendu publique une proposition de relance du processus d'élargissement vers ces pays des Balkans, une initiative qui était soutenue d'ailleurs par Emmanuel Macron, souvenez-vous.
Avoir une Europe plus souveraine suppose d'acter et d'assumer la perspective européenne des Balkans occidentaux. Les Balkans occidentaux correspondent à une région qui est enchâssée dans l'Union européenne actuelle, qui fait l'objet de multiples déstabilisations, pressions, et qui pourrait, par histoire, par pression, se tourner ou vers la Russie ou vers la Turquie. Je pense que ce serait mauvais pour l'Union européenne. Et donc notre intérêt comme notre responsabilité et ce qui nous aidera à construire une véritable souveraineté européenne sur le plan géopolitique, c'est d'ancrer les Balkans occidentaux auprès de l'Union européenne.
Michel Fouché, on entendait à l'instant Emmanuel Macron. Cette relance par la Commission européenne du processus d'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans, c'est quoi? C'est un réel désir de les intégrer à l'Union, ou est-ce que c'est une manière d'éviter qu'ils ne tombent dans l'escarcelle, alors de la Turquie peut-être pas, mais en tout cas de la Russie?
Je crois que la dimension de sécurité est première. Les mosquées prolifèrent, les mosquées wahhabites prolifèrent en Bosnie, en Albanie, au Kosovo. Il y a les intérêts turcs, les intérêts russes. Donc il y a un risque de sécurité. Au-delà du risque migratoire, parce que dans les mouvements migratoires depuis 2015, il y avait sans doute des Syriens et surtout des Albanais. Et on les a un peu laissés tomber en cours de route à partir de 2008-2009. En plus, la moitié de ces États sont des États artificiels et non viables. Je pense à la Bosnie, je pense au Kosovo. La Macédoine a toujours se débat toujours avec une question sémantique. On va voir comment ça tourne en Grèce. Donc on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Au fond, on répond. Le discours de Macron est très intéressant. Il répond à un contexte. Il dit, si on ne fait rien, on aura un foyer d'insécurité à nos portes. Donc c'est pas par amour des Balkans, et c'est vrai que ce qu'il appelle la perspective européenne, ça ressemble à c'est une forme de diplomatie de transformation, c'est-à-dire qu'on donne des perspectives, les perspectives c'est de l'argent, mais c'est aussi l'état de droit qu'on installe, c'est toute une législation. Les Serbes d'ailleurs sont très avancés, ils ont eu la bonne idée de mettre en place des systèmes d'adaptation de la législation européenne sans tenir compte du rythme, du rapprochement. Je dirais, heureusement ou malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé aujourd'hui de proposer cela, et on va d'ailleurs commencer d'ici peu avec la Macédoine. Petit élément qui est derrière, la politique américaine et l'extension de l'OTAN aussi, dans cette partie des Balkans.
Oui, vous faites référence au Monténégro qui a intégré l'OTAN.
Et puis la Macédoine. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Il faut terminer le travail géographique, en quelque sorte. Simplement, il faudra certainement corriger un des dysfonctionnements les plus graves des institutions européennes aujourd'hui, c'est la Commission. On n'a pas besoin d'une Commission avec 28 commissaires. Il n'y a pas 28 matières communes. Et donc il faudra casser cette espèce de poids du nombre dans la Commission européenne avant l'adhésion de ces pays.
Laurent Varlouzet, le géographe Michel Fouché, nous dit qu'il faut finir le travail géographique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi finir le travail historique d'une certaine manière et inclure ces Balkans?
Oui, bah, de toute façon la France était l'alliée de la Serbie en 1914, donc on a pas mal parlé de la Première Guerre mondiale, ça a quand même joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la guerre. Au-delà, il faut aussi se rappeler d'une chose, là, je le dis toujours à mes étudiants, et ils me prennent pour un vieux barbon quand je dis ça. Bon, l'Europe c'est la paix, mais on parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, la guerre en ex-Yougoslavie, c'était il y a pas si longtemps que ça, et puis il y a eu une guerre en Europe, en Ukraine, là, il y a encore peu de temps. Donc, ce serait terminé, je dirais, le travail de réconciliation post-guerre en ex-Yougoslavie, qui est quand même un événement très récent, très, très, très traumatisant. Et donc, ça, ce serait pour donner une perspective plus positive à cet élargissement.
Allons, je crois qu'il faut absolument, dans les mois qui viennent, rappeler ce que vous dites. C'est la paix. C'est d'ailleurs ce qui vient juste après, dans le dernier sondage Eurobaromètre, qui est soutenu à fond par les opinions publiques. C'est quand même 27 000 personnes sondées. Il y a la libre circulation, 58%. 54%, c'est la paix. Il faut rappeler cela. Il faut rappeler cela. Mais ça a été rappelé, là, par le président Macron, au moment d'Aix-la-Chapelle, de ce traité, et des commentaires de pollution volontaire en provenance de l'extrême droite. Il faut rappeler tout cela. Alors, évidemment, on a l'impression que c'est une évidence. Mais, encore une fois, quand on doute, eh bien, on regarde en longue durée d'où on vient. Qu'est-ce qui a été accompli? Et on a, en gros, su improviser au sens du musicien de jazz. C'est ça la construction. C'est la règle et c'est de l'improvisation parce que on a prise sur ce qu'on décide nous-mêmes, mais on n'a pas prise sur l'environnement international. Les Balkans, pour l'instant, c'est un élément d'environnement extérieur et on va essayer de maîtriser les choses. Il va falloir improviser. Il faut peut-être sortir du tout ou rien de l'adhésion, il faut trouver des systèmes intermédiaires, il faut improviser comme un musicien.
Sauf que l'improvisation n'est pas toujours bonne, Michel Fouché. Et allons un peu plus à l'Est, parlons du partenariat oriental qui avait été lancé en 2009, un accord entre l'Union européenne et les anciennes républiques soviétiques, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine, qui visait ce partenariat à entamer, à soutenir le mouvement de réforme économique et politique dans ces six pays, en échange d'une intensification des relations avec l'Union européenne. On a vu ce que ça avait produit. Faut quand même se rappeler que la révolte populaire en Ukraine de la place Maïdan, à l'origine de cela, eh bien, se trouve cette décision du gouvernement de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne. Et donc là, on peut s'interroger sur la stratégie de l'Union dans ce rapprochement de ces pays-là, Michel Fouché. Est-ce qu'on a bien improvisé pour filer la métaphore du musicien de jazz que vous utilisiez tout à l'heure? Parce qu'on voit bien comment la Russie a essayé de bloquer tout cela. Directement sur le terrain s'agissant de l'Ukraine, et puis plus généralement en construisant une nouvelle union eurasiatique à laquelle ont participé notamment l'Arménie et la Biélorussie, donc en bloquant d'une certaine manière ce processus, Michel Fouché.
Oui, mais là on a fait beaucoup d'erreurs à Bruxelles et à Varsovie et à Washington. On a un conflit de frontières, de zones d'influence. Il faut quand même pas oublier l'histoire et sous-estimer l'ampleur des liens culturels, religieux, historiques entre la Russie et l'Ukraine, qui est un État dont la formation territoriale a largement dépendu de la bonne volonté de Staline, hein, notamment dans le Donbass. Et ça, on n'a pas su gérer ça, parce qu'on a raisonné en termes de tout ou rien. Il aurait fallu d'abord mettre en avant assez vite un statut de neutralité de l'Ukraine pour ne pas inquiéter inutilement les Russes. Les Russes ne peuvent pas accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Point final. Il faut en tenir compte. Cet intérêt-là de sécurité des Russes, il est légitime. Ils sont pas tous légitimes. On n'en a pas tenu compte. On n'a pas tenu compte du fait que les sociétés sont partagées. Et là, il fallait improviser, c'est-à-dire qu'il faut faire du sur-mesure. Statut de neutralité stratégique.
Pays par pays, vous voulez dire?
Là, pour non, vraiment. Dans le cas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, il y a toujours ce raisonnement américain de Brzezinski que l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne serait le signe que la Russie cesserait d'être un empire. Bon, on n'en est pas encore là. Il a mis ça dans la tête. Brzezinski, avant de mourir, a changé d'avis en promouvant la neutralité stratégique. Comme la Finlande, comme l'Autriche, s'en porte pas mal, hein. Ou même la Suède. Donc, neutralité stratégique de l'Ukraine, rapprochement commercial, les visas, etc., l'éducation, la technologie, avec l'Union européenne, un peu plus d'état de droit en Ukraine, et prise en compte des intérêts russes qui sont légitimes, et notamment des intérêts économiques. Alors que l'accord d'association proposé, qui faisait plus de 1000 pages, était en fait un accord d'adhésion déguisé, poussé par les Polonais, par les Lituaniens, et un peu moins par les Roumains et les Américains. Et là, on a fait de la provocation inutile.
Laurent Varlouzet, vous êtes d'accord? On s'est trompé, on s'y est mal pris, d'une certaine manière, pour reprendre un peu l'idée de Michel Fouché, on a nié l'histoire un peu.
Je pense, oui, effectivement, les pays qui ont été nommés d'ailleurs étaient ceux qui avaient qui s'étendaient sur une partie de l'Ukraine. Hein, le royaume polono-lituanien, par exemple, couvrait une partie de l'Ukraine. Ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a plusieurs formes d'Europe en termes de frontières, mais aussi en termes de domaines de coopération. Donc l'Union européenne sait bien faire tout ce qui est coopération commerciale. Hein. C'est pour ça qu'on a conclu le traité de Rome en 57. C'était aussi pour négocier avec les Américains, pour avoir plus de poids dans les négociations commerciales. Bon, quand on parle des aspects après stratégiques, géopolitiques, là il faut, c'est un autre domaine. L'Union européenne n'a pas de compétences complètes dans ce domaine et il faut faire intervenir les États, il faut être prudent, il faut effectivement tenir compte de logiques qui ne peuvent pas se réduire à des aspects vraiment purement économiques, commerciaux, juridiques. Donc il faut effectivement rester prudent.
Ce qu'on n'a pas fait. On va retrouver depuis Berlin une nouvelle invitée, c'est Elsa Tulmetz. Bonjour Elsa Tulmetz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au Centre Marc Bloch, chercheuse associée à l'Institut de Relations Internationales de Prague. Tout à l'heure, Michel Fouché le disait, la Pologne notamment a effectivement joué un rôle important dans la mise en place de ce partenariat oriental. Mais au fond, tous les pays de Visegrad, la Hongrie également, la Slovaquie, la Tchéquie également, ils ont joué un rôle important. Et compte tenu de la montée en puissance aujourd'hui du populisme et de l'euroscepticisme de ces pays du groupe de Visegrad, on peut s'interroger sur ce qu'il reste aujourd'hui de leur motivation, mais aussi de leur capacité à accompagner cette transition économique et politique des membres du partenariat oriental, parce que c'était ça l'idée, c'est-à-dire s'appuyer au fond sur leur modèle de transition, ceux des pays de Visegrad, pour l'exporter du côté de ces pays du partenariat oriental. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours disposés, ces pays, toujours concernés, engagés dans ce partenariat oriental? Est-ce que c'est toujours une priorité pour eux, ou est-ce que finalement, c'est plus un problème, c'est plus une priorité?
Oui, alors merci. Ce sont des points très importants à mentionner. Les pays d'Europe centrale et orientale se sont vraiment engagés dans cette politique, enfin, le façonnement d'une politique européenne vers l'Est, même déjà avant leur adhésion officielle. Hein, la Pologne avait déjà proposé des projets de politique européenne vers l'Est en 2002-2003. Donc c'est un engagement qui date déjà même qui s'appuie sur des relations historiques relativement anciennes avec les pays comme le Bélarus, l'Ukraine pour la Pologne en particulier, ou la Moldavie pour la Roumanie, ou la Géorgie même qui a entretenu des liens aussi avec les États baltes, on va dire même pendant la période soviétique. Donc là en effet, je pense qu'il y avait pas vraiment une surprise de voir se mettre en place ce type d'initiative de la part des pays d'Europe centrale orientale au moment de leur adhésion à l'Union européenne. Il faut savoir que ces pays aussi ont mis en place une politique d'assistance, d'aide à la démocratie, de reprise des normes européennes relativement importante par rapport à leur budget relativement modeste. Ils ont parfois, comme dans le cas de la Pologne, mobilisé la moitié de leur budget pour aider ces processus démocratiques, par exemple en Ukraine. Mais en effet, l'arrivée des gouvernements populistes, eurosceptiques dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie permettent de se poser de nouvelles questions. Donc dans ce contexte actuel, moi ce que je vois en fait, bon, surtout depuis Berlin, il y a énormément de discussions sur ces sujets. Je suis aussi active et j'enseigne à l'université de Francfort-sur-Oder, qui est une université germano-polonaise, où située juste à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, on discute beaucoup de ces sujets. Et en effet, l'arrivée du populisme demande à être suivie de près. Je vois cependant que les priorités restent les mêmes, c'est-à-dire la priorité à l'élargissement de l'Union européenne, qui est surtout, concentrée sur les questions de l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans, aux pays des Balkans occidentaux, dont vous avez déjà parlé précédemment, mais également les renforcements des liens avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, sont toujours présents parmi leurs priorités.
Oui, pardon, mais vous n'avez pas noté, et là, ça va me permettre de le traiter maintenant, la question russe, c'est-à-dire le facteur russe. Pendant très longtemps, ce qui poussait ces pays, au fond, à soutenir le rapprochement avec les pays du partenariat oriental, c'était la Russie, c'était la pression exercée par Moscou pour garder une forme d'emprise sur ces anciens satellites soviétiques. Or là, on voit aussi qu'on a assisté ces dernières années à une forme de rapprochement des pays d'Europe centrale avec le régime russe, avec un Orban, par exemple, qui n'hésite pas à revendiquer une certaine filiation même avec le chef du Kremlin. Est-ce que ce facteur russe, il est toujours un élément important qui pousse à ce rapprochement avec l'Union européenne? Est-ce que le groupe de Visegrad est toujours aussi anxieux à propos de cette influence russe dans cette partie orientale de l'Europe? Qu'est-ce que vous en ressentez, vous qui êtes sur place?
Alors bien sûr, oui, il y a une forme d'anxiété qui est présente, mais qui se manifeste de manière très différente parmi les États du groupe de Visegrad. Il faut savoir qu'il y a eu, par exemple, dans le cadre des débats sur les questions migratoires en Europe, on a perçu une sorte de consensus très fort au sein du groupe de Visegrad. Mais par contre, sur la question russe, il y a une grande division parmi ces États et elle n'est pas souvent mise en valeur et soulevée. Et dans le cas hongrois, comme vous l'indiquez, en effet, il y a vraiment un rapprochement avec Moscou qui s'est effectué, surtout autour de questions énergétiques, en fait, d'approvisionnement énergétique. Mais par contre, dans le cas de la Pologne, Michel Fouché en a parlé précédemment, là, au contraire, il y a vraiment une sorte de refus même du dialogue avec la Russie, de difficulté à envisager même toute forme de reprise du dialogue, enfin en tout cas au niveau du gouvernement actuel. Par contre, oui, aussi dans le cas de le cas roumain, même chose, il y avait quand même toujours une position critique de la Roumanie vis-à-vis de la Russie. Et donc je pense qu'on a quand même des exemples, bon là on sort des cadres du groupe de Visegrad avec la Roumanie, mais on a quand même des exemples où qui indiquent qu'il n'y a pas de position unie entre les pays d'Europe centrale et orientale sur la politique à adopter vis-à-vis de la Russie et qui du coup en effet permet de se poser des questions sur la relation à définir avec la Roumanie, avec la Moldavie, avec l'Ukraine ou la Géorgie, des pays qui envisagent, sont en train de reprendre une grande partie de l'acquis communautaire par rapport à leur priorité politique actuelle, qui sont de se rapprocher quand même de l'Union européenne.
Vous restez avec nous, Elsa Tulmetz. Je vais vous mettre un tout petit peu en attente pour faire réagir nos invités ici en plateau, Laurent Varlouzet et Michel Fouché, sur le facteur russe en particulier, Michel Fouché, et le fait que peut-être aujourd'hui, il est moins prégnant qu'hier, d'une certaine manière, et que ça a évidemment une influence sur la manière dont on envisage l'élargissement de l'Union.
C'est le grand échec de la politique extérieure de l'Union européenne, la Russie. C'est un, on a raté la sortie de la guerre froide. Deux, partenariat oriental, c'est une idée polono-suédoise. C'est Charles XII contre Pierre le Grand. L'objectif des États frontaliers, c'est de faire reculer la Russie le plus loin possible. La politique française, ou même italienne d'ailleurs, et partiellement allemande, est complètement à l'opposé de ça. Le président Macron disait, il faut trouver les moyens d'arrimer la Russie à l'Union européenne d'une façon ou d'une autre. On n'a pas trouvé le bon équilibre, parce que c'est le sujet qui divise le plus les Européens. Le seul élément positif de cette division, c'est que ça rend impossible un accord de fond entre Kaczynski et Salvini. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y aura jamais d'international nationaliste qui sera d'accord sur la politique de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Or, c'est fondamental parce que c'est notre premier fournisseur de gaz.
Laurent Varlouzet, sur cette question du facteur russe et sur la manière finalement de repenser, de remettre sur la table notre rapport, le rapport de l'Union européenne à la Russie, sachant que Michel Fouché nous le disait, en réalité il y a énormément de divisions effectivement en Europe. Donc comment est-ce qu'on peut s'y prendre très concrètement? Est-ce que, pourquoi pas, on parlait du partenariat oriental, est-ce qu'il faut passer un accord avec Moscou, entre Bruxelles et Moscou, sur le mode coopération économique, commerciale, politique, pour dire mais si, en fait vous n'êtes pas complètement exclu, on va essayer de vous intégrer d'une certaine manière au projet européen. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là, Laurent Varlouzet ?
Je pense que, comme ça a déjà été dit par Michel Fouché, il faut être imaginatif, avoir une certaine flexibilité. On peut très bien imaginer une convergence normative dans certains éléments du commerce de biens industriels sans forcément transformer ça en une adhésion pure et entière, pleine et entière. Pardon. La Norvège, par exemple, fait partie de l'espace économique européen sans faire partie de l'Union européenne, donc il y a différentes formes de coopération avec l'Union européenne qui existent et qu'il faudrait imaginer pour l'avenir.
Michel Fouché, encore un mot avant de retrouver Elsa Tulmetz.
Le point de rupture, c'est le sommet de l'OTAN de Bucarest en 2009, lorsque d'une part la France et l'Allemagne s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais Madame Merkel passe la nuit à rédiger un communiqué qui va essayer d'amadouer les Américains, puisque c'est une position franco-allemande qui est à l'opposé de la position américaine, et elle écrit la porte reste ouverte, c'est elle qui écrit ça. Et Poutine y voit une provocation. Ensuite, vous avez la guerre en Géorgie, après il y aura la Crimée, il y aura l'Ukraine. Et puis le renforcement des capacités à Kaliningrad. Donc ça, c'est le grand échec de notre politique extérieure, influence des États-Unis, dans tous les ministères à Kiev, dans les derniers étages, vous avez des conseillers américains. L'ancien président, vice-président Biden gérait directement l'Ukraine. Et Victoria Nuland également. Donc c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais vous voyez, soit on est dans des logiques de refoulement, soit on est dans des logiques, disons, de travail commun sur des sujets d'intérêt commun, énergie, sécurité en particulier, lutte contre le terrorisme. Comme disait l'ancien président Václav Havel, un des problèmes centraux en Europe, c'est qu'on, dans l'histoire, c'est qu'on ne sait pas où se termine l'Union européenne et on ne sait pas où commence la Russie. Il disait, le jour où on saura où sont les frontières de la Russie, la moitié des problèmes seront réglés. Là, on est dans des logiques.
C'est en négociation, en réalité.
On est dans des logiques d'air d'influence. Ouais. Mais au lieu de les négocier, on se combat dans le Donbass, en Crimée, et avec des invectives extraordinaires, parce que aujourd'hui, il y a une espèce de guerre de propagande extrêmement efficace.
Comment corriger les choses, Elsa Toulmetz? Michel Fouché faisait référence au sommet de Bucarest. La Roumanie, justement, va prendre là pour 6 mois la présidence de l'Union européenne. Elle l'a pris depuis le 1er janvier dernier. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait permettre d'améliorer la coopération entre l'Union et les pays du partenariat oriental et même avec la Russie? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas grand-chose à en attendre? Et finalement, les dissensions qu'on a évoquées aujourd'hui à l'intérieur de l'Europe, mais même à l'intérieur de ces pays d'Europe centrale, font que rien n'avancera a priori, en tout cas à moyen terme, Elsa Toulmetz.
Moi, j'essaie de ne pas être pessimiste malgré les situations, actuelles qui poussent quand même au pessimisme. Ce que j'essaie d'identifier sur le plus long terme, en tout cas depuis le lancement du partenariat oriental en 2009, c'est quand même la poursuite de la part de l'Union européenne de négociations d'accords relativement solides qui sont quand même très très similaires aux accords qui avaient été conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale lors de l'adhésion à l'Union européenne en 2004 et 2007. Et donc du coup, on voit quand même des processus en cours qui visent au renforcement, en fait. Et je pense que la présidence roumaine a défini parmi ses priorités le fait de faire progresser le processus d'élargissement de l'Union européenne et fêter le 10e anniversaire du lancement du partenariat oriental. Donc là, je pense qu'à travers ces deux priorités clairement affichées, la Roumanie va continuer à œuvrer dans ce sens. Maintenant, en effet, le fait de savoir si cette approche est la plus adaptée, je pense qu'il y a des attentes qui sont relativement fortes vis-à-vis de l'Ukraine, en tout cas au sein des gouvernements actuels en Ukraine, en Moldavie et également en Géorgie, qui ne peuvent pas être remplies de la part de l'Union européenne dans le contexte actuel, aussi pour ne pas de nouveau créer de provocations vis-à-vis de la Russie. L'idée étant au contraire d'essayer de trouver des situations apaisantes, des compromis, voire des éléments d'accord de renforcement de la coopération avec la Russie sur certains points. Donc là, je pense qu'il faut y aller un peu au cas par cas, par secteur, voir ce qui est possible. Maintenant, à savoir si la Roumanie représente actuellement un pays permettant de projeter, un idéal tel que l'Union européenne aimerait le projeter, c'est une question qui se pose pour la plupart d'autres États membres, populistes ou eurosceptiques actuellement. Et là, je pense que les discussions vont plutôt être menées sur ces aspects-là.
Allez, on va finir ce tour de table. On arrive presque au terme de cette émission. Laurent Varlouzet et Michel Fouché, en guise de conclusion, on voit bien évidemment ces difficultés au fond à définir les frontières de l'Europe du côté oriental. Laurent Varlouzet, en guise de conclusion.
Non, très rapidement, juste pour dire que le problème, l'enjeu russe recouvre en partie l'enjeu de la Turquie. On n'a pas parlé de la désunion.
On n'a pas parlé de la Turquie.
En fait, la Turquie, c'est un pays qui est un petit peu à l'image de la Russie, un très grand pays, un pays très puissant, un ensemble d'un ancien empire. Donc, difficile d'intégrer un pays aussi puissant. Hein, et donc, ça pose aussi un autre enjeu.
Michel Fouché. Très rapidement,
depuis 70 ans, ça marche. Deux, en effet, il y a un risque. Je cite De Gaulle. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester le patriotisme des autres.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Merci à Elsa Toulmetz d'avoir été avec nous en direct par téléphone depuis Berlin. On n'a pas parlé non plus de la Moldavie, j'avais prévu de le faire, mais voilà, le temps nous a manqué plutôt que d'en parler en surface. Mais j'indique pour nos auditeurs un article très intéressant que vous aviez écrit, La Moldavie et la politique de voisinage de l'Union européenne. Quel partenariat qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Michel Fouché, je rappellerai vous concernant l'Europe, un dessin, un destin qui était paru aux éditions Marie B. Laurent Varlouzet, vous concernant, c'est vous qui allez rappeler le titre de votre ouvrage parce que vous l'avez sous les yeux, pas moi.
Governing Europe in a Globalizing World.
Merci infiniment à vous. 11h53, l'heure pour tout. Pour nous, de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et pour commencer, un petit détour par une uchronie, une histoire contrefactuelle. Et si certaines choses s'étaient passées tout autrement, Brice?
Oui, dans son roman « Le complot contre l'Amérique », Philip Roth, on s'en souvient, décrit ce à quoi auraient pu ressembler les États-Unis si Charles Lindbergh, le premier aviateur à avoir relié New York à Paris en 1927, avait mis à profit son immense popularité pour devenir président des États-Unis. Lindbergh était un admirateur d'Hitler et un antisémite. S'il était parvenu au pouvoir, les États-Unis ne seraient certainement pas entrés en guerre aux côtés des Anglais et des Soviétiques. Par bonheur, Lindbergh n'avait pas les ambitions politiques que Roth lui imagine dans son roman. Mais les États-Unis de l'entre-deux-guerres eurent bien d'autres candidats au rôle de leader populiste d'extrême droite. À commencer par Henry Ford, propriétaire d'un journal, le Dearborn Independent, dans lequel on dénonçait jour après jour les banquiers, les juifs et les bolcheviks, Ford finança une traduction des protocoles des sages de Sion qui se vendit à 500 000 d'exemplaires. Adolf Hitler le cite avec admiration dans Mein Kampf et en 1938, le régime nazi lui remit la Grand Croix de l'Aigle allemand. Si Henry Ford nourrissait des ambitions présidentielles, écrivent les auteurs de « La mort des démocraties », il était né un siècle trop tôt. À son époque, l'opinion des critiques des partis primait sur l'opinion publique et ses politiciens ne voulaient surtout pas de Ford. Un siècle trop tôt parce que Donald Trump présente un profil assez comparable à celui de Henry Ford. Et lui, il a été élu président des États-Unis. Entre-temps, le filtre que constituaient les partis politiques a pratiquement disparu. Aux primaires, les électeurs choisissent directement leurs candidats et contrairement à une opinion très partagée ces temps-ci, ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour la démocratie.
Et alors, Brice, dans ce livre qui paraît ces jours-ci, « La mort des démocraties », les deux auteurs, professeurs de sciences politiques à Harvard, exposent avec vigueur et clarté ce qui est arrivé à plusieurs démocraties qu'on avait tout lieu de croire solides.
Oui, parce que ces précédents devraient nous servir d'avertissement. À nous qui, comme les Américains aujourd'hui, avons la chance de vivre encore dans le cadre de démocraties authentiques. À travers les contre-exemples de la Russie de Poutine, du Pérou de Fujimori, de la Turquie d'Erdogan, du Venezuela de Chavez et Maduro ou encore de la Hongrie de Orban, ce livre démontre comment des démagogues New Look, après avoir surfé sur une demande de démocratie plus authentique et de lassitude envers les élites, ont miné de l'intérieur le système démocratique et instauré de quasi-dictatures. C'est en effet sous prétexte de rendre la parole au peuple, et souvent à la faveur d'une crise, que ces dirigeants, peu ou pas au fait des contraintes du système démocratique, instaurent ensuite, pas à pas, leur régime autoritaire. Mais ils ignorent les deux principales vertus qui permettent à la démocratie de fonctionner, à savoir la tolérance envers leurs adversaires et le fait que les politiciens doivent faire preuve de modération dans l'exercice de leurs prérogatives. Oh, préviennent Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, qui sont les deux auteurs de ce livre, ne vous attendez plus à voir les tanks encercler les palais présidentiels et les chars le bombarder comme cela s'est passé au Chili en 1973. Non, les nouveaux dirigeants autoritaires arrivent au pouvoir non seulement par la voie des urnes, mais à la faveur d'une formidable aspiration démocratique qu'ils ont l'intelligence de canaliser. Prenez Alberto Fujimori. Ce modeste recteur d'une petite université voulait se présenter aux élections sénatoriales en 1990. Comme aucun parti ne voulait soutenir sa candidature, il eut l'idée de se présenter carrément au présidentiel afin d'attirer simplement l'attention des Péruviens sur sa campagne sénatoriale. Son slogan « Un président comme vous ». En dénonçant les élites incapables de venir à bout des terroristes du Sentier Lumineux, il sut donner voix à une extraordinaire lassitude des électeurs péruviens envers le système politique en place. Tous les médias du pays étaient contre lui et soutenaient son opposant, le fameux écrivain libéral Mario Vargas Llosa. Mais c'est justement ce qui incita une majorité des électeurs à lui donner le pouvoir, à lui Fujimori. De plus en plus, il faut le savoir, les électeurs votent contre les partis pris trop affichés des médias. Une fois au pouvoir, Fujimori découvrit, je cite, que « la démocratie est un travail éreintant. Alors que les entreprises familiales et les régiments peuvent être dirigés sur ordre, la démocratie exige négociations, compromis et concessions. Les échecs sont inévitables, les victoires toujours partielles, les initiatives présidentielles peuvent échouer au Parlement ou devant les tribunaux. » Tous les politiciens sont frustrés par ces contraintes. Fin de citation. Du coup, les amateurs, les démagogues sans expérience éprouvent, eux, la tentation de passer en force. Et l'on voit la démocratie s'éroder lentement, petit pas par petit pas. Chaque initiative paraît mineure et puis les contre-pouvoirs minés finissent par perdre toute influence réelle. Un nouveau régime s'installe en catimini. qui n'a plus que l'apparence de la démocratie.
Merci Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel on peut écouter, réécouter toutes vos chroniques. On vous retrouve demain, Brice, dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et la Grande Table.